Ces derniers temps, en Europe, en France, dans le monde, vous avez sans doute eu vent de beaucoup d'attentats, de beaucoup de guerres. Guerre en Ukraine, attaque au couteau la semaine dernière à Marseille, attaque au Bélier à Barcelone, tuerie à Las Vegas, Charlie Hebdo, le Bataclan. Et la question qu'on peut se poser dans tout ça, c'est quelle doit être la position d'un chrétien là-dedans? Quelle doit être la position Est-ce que la Bible parle d'un combat? Alors je vais lire dans Éphésiens 6, versets 10 et 12a. Pour conclure, puisez votre force dans le Seigneur et dans sa grande puissance, car nous n'avons pas à lutter. Bon, bah c'est bon. Mon prêche est terminé, nous n'avons pas à lutter. Bon dimanche à tous. Non, malheureusement, le verset s'arrête pas là. Voilà. Car nous n'avons pas à lutter contre des êtres de chair et de sang, mais contre les puissances, contre les autorités, contre les pouvoirs de ce monde de ténèbres et contre les esprits du mal dans le monde céleste. Bon, en fait, ce que j'avais fait, c'est que j'avais mal ponctué le verset. J'avais rajouté un point. Après, nous n'avons pas à lutter. Pourquoi est-ce que j'ai fait ça? C'est pas innocent, vous me connaissez. Je trouve que, bien souvent, et je m'inclus dedans, on peut oublier qu'il y a un combat. On peut l'ignorer, sciemment ou non, ou par peur ou crainte de participer. À titre personnel, au début de ma vie chrétienne, moi j'ai eu 2 années de grosse dépression. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais essentiellement pendant 2 ans, j'étais complètement passif, je m'apitoyais sur moi-même, et j'attendais juste que le Seigneur vienne me sortir de là. J'étais pourtant converti, mais j'étais un soldat qui avait rendu les armes avant même de combattre. Mais voilà, ce combat existe. Et maintenant que j'ai dit ça, je vais poser les questions classiques de sixième. Qui, comment, où? Et surtout aussi, comment gagner? Vas-y, tu peux. Voilà. Contre qui? Comment ils se battent? Où? Le fait qu'on a déjà la victoire est un bilan plus pratique. Et je vais le voir ça dans une approche plutôt personnelle, moins d'intercession aujourd'hui. Alors, contre qui? Contre qui est la guerre? Alors, le verset d'Éphésiens. Il dit, nous n'avons pas à lutter contre des êtres de chair et de sang. Donc premier point, c'est on ne lutte pas contre des hommes. C'est un point essentiel à comprendre. Je vais revenir sur un texte que Mamie avait lu il y a quelques semaines dans 1 Timothée 2, versets 1, 2 et 4. Je recommande en tout premier lieu que l'on adresse à Dieu des demandes, des prières, des supplications et des remerciements pour tous les hommes. Que l'on prie pour les rois et pour tous ceux qui sont au pouvoir. Car Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Ce qui m'intéresse particulièrement dans ce passage, c'est prier pour. Que l'on adresse à Dieu des demandes, des prières, des supplications et des remerciements pour tous les hommes. On voit que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. On pourrait avoir toutes les raisons du monde de détester quelqu'un. Dieu voudrait quand même que cette personne soit sauvée. Que cette personne connaisse qui est Christ. Alors, pour nous, c'est peut-être facile à dire, entre guillemets. Je ne sais pas à quel point vous connaissez les chrétiens persécutés et ce qu'ils vivent. Par exemple, en février 2015, il y a 21 chrétiens égyptiens qui ont été décapités par des djihadistes. Et suite à cela, il y a plusieurs télévisions qui avaient interviewé les familles des victimes, les familles des proches. Et en fait, toutes ces familles avaient parlé non pas de haine, mais de pardon et d'amour. Et en parallèle, les églises coptes en Égypte avait aussi prié pour appeler la grâce de Dieu sur les assassins. Et je pense que c'est vraiment comme ça qu'il faut procéder. Il faut prier pour les persécuteurs, et donc contre eux. Le texte précise aussi de prier pour ceux qui sont au pouvoir. Et c'est vrai que, par exemple, quand on pense à des gouvernements comme la Corée du Nord, on pourrait se dire, une solution serait de prier pour que le gouvernement soit renversé, que les dirigeants disparaissent, ou soient tués, c'est plus radical. Mais est-ce que c'est vraiment ça que voudrait Dieu? Est-ce qu'on ne devrait pas juste prier pour le gouvernement? Et si les dirigeants se convertissaient, est-ce que ce ne serait pas 1000 fois plus impressionnant? On peut penser à Saul de Tarse, qui était un persécuteur de l'Église et qui, en se convertissant, est devenu un des plus grands disciples de Christ. Donc, ce n'est pas contre les hommes. Donc, c'est contre qui? Donc, nous n'avons pas à lutter contre des êtres de chair et de sang, mais contre les puissances, contre les autorités, contre les pouvoirs de ce monde de ténèbres et contre les esprits du mal dans le monde céleste. Autrement dit, le combat, il n'est pas contre des hommes, il est contre des puissances spirituelles, ce que la Bible appelle ailleurs Satan et les démons. Alors, j'ai conscience que je peux choquer en parlant directement. C'est un sujet qu'on ne va pas forcément aborder souvent dans l'Église. Et à titre personnel, c'est parce qu'on n'en parlait pas souvent dans les églises où j'allais ou dans ma propre famille que très longtemps j'ai douté jusqu'à leur existence. Pourtant, dans les évangiles, on voit que Jésus chasse beaucoup de démons. Donc, ils doivent bien exister. Je vous l'avais dit pour ceux qui étaient là quand je m'étais fait baptiser. Quand j'étais petit, moi j'aimais beaucoup tout ce qui était fantastique, héroïque fantasy. Voilà, je lisais des livres, je regardais des films. Mais tout ça, pour moi, au lieu de m'attirer vers ces questions-là, c'était, je le classais dans mythe, fantasy, histoire fictive. Je sais pas, ceux qui connaissent le dessin animé Kirikou ou le Disney La princesse et la grenouille. Dans ces deux dessins animés, l'ennemi, donc c'est une sorcière ou un sorcier, qui fait de la magie vaudou. Et moi, pendant très longtemps, voilà, c'était juste quelque chose à ranger dans la catégorie culture, pittoresque, voilà, histoire pour amuser les enfants ou pour ajouter une histoire, ou quelque chose pour les crédules. Pourtant, il y a quelques semaines, début septembre, il y a eu des baptêmes, et une des baptisées sortait justement du vaudouisme. C'est quelque chose qui existe. Quand j'étais petit aussi, j'entendais beaucoup parler en Afrique de beaucoup de phénomènes plus paranormaux et je me disais, je confesse, j'ai déjà demandé pardon à Dieu et je m'excuse si je vais choquer, mais je pense qu'il y avait un côté en moi qui me disait, bon, c'est juste les pauvres petits Africains qui ne savent pas vraiment, mais bon, en Occident, on sait bien comment ça marche, on sait bien, on peut expliquer par la science, ils n'ont juste pas cette explication, il y a de la crédulité. Et voilà, je demande pardon si j'ai choqué quelqu'un en disant ça, mais voilà, j'avais cette façon de raisonner et je pense que je ne suis pas le seul à l'avoir. Et alors que j'étais chrétien, et donc je croyais en Dieu, et je me rends compte que c'était très facile pour moi de balayer tout ce pan du monde spirituel, alors je me rends compte que pour mes amis non chrétiens, ça va être encore plus facile de balayer même l'existence de Dieu. Il faut qu'on fasse attention à notre esprit rationnel et scientifique aussi, surtout en Occident. Et moi, je fais des maths, donc je connais bien ce que je parle. Dans Luc 11, verset 14, enfin, à partir du verset 14, je lis deux, trois passages. Jésus chassa aussi un démon qui était muet. Et le démon étant sorti, le muet parla. Et le peuple était dans l'admiration. Et quelques-uns d'entre eux dirent, c'est par Belzébul, le prince des démons, qu'il chasse les démons. Mais Jésus, connaissant leurs pensées, leur dit, tout royaume divisé contre lui-même sera réduit en désert. Et toute maison divisée contre elle-même tombera en ruine. Si donc Satan est aussi divisé contre lui-même, comment son royaume subsistera-t-il? Mais si je chasse les démons par le doigt de Dieu, il est donc vrai que le royaume de Dieu est venu à vous. Notons qu'il est question du royaume de Satan. Ce n'est pas seulement des petits démons qui se baladent et qui quand ils s'ennuient, décident de frapper. C'est une organisation. Satan est quelque chose de bien organisé, mais il y a aussi le royaume de Dieu en face. Et c'est une guerre entre ces deux royaumes. La guerre, elle est là. Quelqu'un a dit, alors j'ai pas réussi à retrouver qui c'était, je crois que c'est C.S. Lewis, mais je suis pas sûr, que Satan, le diable, a deux stratégies. Faire croire qu'il est omniprésent, alors qu'il n'est pas omniprésent, il n'est pas omnipotent. Ça peut être le cas effectivement dans certaines zones, par exemple en Afrique. Et on va pouvoir avoir une tendance à oublier que Dieu est plus puissant, que Dieu a gagné. Mais aussi, l'autre stratégie de Satan, c'est se faire oublier. Et ça, c'est très fort en Occident. C'est quelque chose qui est. Voilà, il se fait oublier, il peut agir dans l'ombre. Mais surtout, il ne veut pas attirer l'attention sur lui, parce que s'il attire l'attention sur lui, il l'attire aussi sur Dieu, sur le fait qu'il existe un monde spirituel. Donc, voilà, là, j'ai parlé des ennemis. Alors maintenant, il faut connaître son ennemi. Ça, c'est de la stratégie militaire la plus élémentaire. Donc déjà, qu'est-ce que ça veut dire le diable? Le diable, ça vient du grec diabolos, qui veut dire le destructeur. Et Satan, Shatan, c'est de l'hébreu. Ah, excuse-moi, tu peux passer. Voilà. Ouais. Shatan, c'est de l'hébreu. C'est l'adversaire, le menteur, l'accusateur, le diffamateur, c'est-à-dire celui qui tord la vérité. Et ça nous donne déjà, avec ces noms, des bonnes explications de qui est notre adversaire. C'est quelqu'un qui nous détruit en nous accusant, en tordant la réalité. En 1 Pierre 5,8, effectivement, on peut lire: Ne vous laissez pas distraire, soyez vigilants. Votre adversaire, le diable, rôde autour de vous comme un lion rugissant qui cherche quelqu'un à dévorer. Le diable, lui, il est actif. Il n'attend pas que nous on le soit. Il espère qu'on ne le sera pas. Alors la question c'est comment est-ce que le diable dévore? On va aller voir quelques exemples dans la Bible d'action de Satan. Donc tout d'abord dans le jardin d'Éden. Voilà, je commence au chapitre 3, verset 1 et je vais lire quelques extraits. Donc Satan est déguisé en serpent et il tente Ève. Il demanda à la femme, vraiment, Dieu vous a dit, ne mangez du fruit d'aucun des arbres du jardin? Donc, comment il procède? Il met en doute ce qu'a dit Dieu. Il vient commencer un doute sur qui est Dieu aussi. La femme répondit au serpent, nous mangeons des fruits des arbres du jardin, excepté du fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin. Dieu a dit de ne pas en manger et de ne pas y toucher, sinon nous mourrons. Alors le serpent dit à la femme, mais pas du tout, vous ne mourrez pas. Seulement Dieu sait bien que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme Dieu, choisissant vous-même entre le bien et le mal. Satan est en train de faire deux choses. Il est en train de flatter l'orgueil, d'une part, la femme, de le pousser dans l'orgueil, et il est aussi en train de lui mentir, en lui donnant qu'une partie de la vérité. Et en faisant ça, il détruit la confiance que la femme peut avoir en Dieu. Alors la femme vit que le fruit de l'arbre était bon à manger, agréable aux yeux, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit donc de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était avec elle, et il en mangea. Bon, le diable a gagné. Il a même réussi, je trouve ce passage très intéressant, il a même réussi à convaincre Ève que le fruit est bien pour ouvrir l'intelligence. Je ne sais pas, moi je ne vois pas ça quand je vois un fruit. Bon. On va aussi relire la tentation de Jésus-Christ dans Matthieu 4. Je passe rapidement, mais il y a trois moments où le diable tente Jésus. La première fois, c'est si tu es le fils de Dieu, ordonne que ces pierres se changent en pain. Pour un peu de contexte, ça fait 40 jours qu'il n'a pas mangé. Donc il l'attaque sur son point faible actuellement, c'est-à-dire son corps, et il le met aussi en doute qui est Jésus. Il est en train de mettre en doute sur l'identité de Jésus. Deuxième tentation, si tu es le fils de Dieu, lance-toi dans le vide, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, ils te porteront sur leurs mains pour que ton pied ne heurte aucune pierre. Donc là, il y a encore une attaque sur l'identité de qui est Christ, mais aussi sur ce que Dieu a dit. Il est en train de reprendre la Bible, de reprendre ce que Dieu a dit et de le tordre. Et enfin, dernière attaque, tout cela, donc les royaumes du monde, je te le donnerai si tu te prosternes devant moi pour m'adorer. Là, il est en train de donner une possibilité à Jésus de contourner sa mission, de ne pas faire ce que Jésus est venu faire. Mais donc, il l'incite aussi à désobéir à Dieu. Donc on voit que dans les deux cas, il est question de tordre qui est Dieu, de tordre qui on est, et de rompre la relation avec Dieu. Alors on peut aussi voir un autre type d'action, par exemple dans Apocalypse 12, verset 10. Car l'accusateur de nos frères, celui qui jour et nuit les a accusés devant Dieu, a été jeté hors du ciel. Le diable, il accuse les chrétiens devant Dieu. Il n'est pas comme on aimerait bien le croire en enfer. Le diable n'est pas en enfer. Il est au ciel et il intercède contre nous. Il intercède contre les personnes. Dans Zacharie 3, verset 1, puis il me fit voir Josué, le grand prêtre, qui se tenait debout devant l'ange de l'Éternel, et l'accusateur se tenait à sa droite pour l'accuser. Là encore, on voit que Satan, il accuse Josué devant Dieu. Et enfin, dans Job, chapitre 1 et 2, Satan est devant Dieu et il plaide contre Job. Est-ce vraiment pour rien que Job révère Dieu? N'as-tu pas élevé comme un rempart de protection autour de lui, autour de sa maison et autour de ses biens? Mais porte donc la main sur ses biens et sur les siens, et l'on verra s'il ne te maudit pas en face. Ça, c'est au chapitre 1 et au chapitre 2. Porte donc la main sur son corps, et l'on verra s'il ne te maudit pas en face. Donc, on voit que Satan, il est là et il accuse. Il accuse les personnes devant Dieu. Alors, je ne sais pas si vous connaissez cette histoire fictive, je m'en souvenais pas précisément, donc je l'adapte un petit peu. C'est l'histoire d'un homme qui rencontre Satan, et Satan lui dit. Si tu fais ce que je te dis, je m'occuperai toujours de toi. Je prendrai soin de toi et je serai toujours avec toi. Donc l'homme dit, bon, bah, super. Satan lui dit, eh ben, on va aller dévaliser des banques. Ok. Donc il commence et Satan lui donne quelques conseils. Et l'homme réussit à dévaliser des banques. Il a plein d'argent. Il roule sur l'or, donc il est vraiment content. Il remercie Satan. Sauf qu'au bout de deux, trois fois, il se fait arrêter. Ah. Donc il va voir Satan et lui dit, mince, comment ça va se passer? T'inquiète, t'inquiète, je gère. Je m'en occupe. Donc il l'a amené au tribunal. Au tribunal, c'est Satan qui fait son avocat. Sauf que Satan se lève et ce qu'il dit, c'est pas forcément pour sa défense, voire au contraire, il l'accuse plutôt. Alors l'homme, il l'attrape par la chemise, il lui glisse à l'oreille, mais qu'est-ce que tu fais? T'inquiète, t'inquiète, je suis en train de gérer. Bon, d'accord, je gère, je gère. Et à ce moment-là, il est condamné coupable. Ah, et à la peine de mort. Ah. Là, il dit à Satan, mais qu'est-ce qui se passe? T'inquiète, t'inquiète. Dans le couloir de la mort, Satan l'accompagne. Il dit, mais là, comment tu vas faire? Non, mais t'inquiète pas, je gère jusqu'au bout. Bon. Et là, l'homme s'assoit sur la chaise électrique, et c'est Satan qui appuie sur le bouton. L'homme se retrouve aussitôt en enfer, et Satan vient lui rendre visite. Tu vois, je t'avais bien dit que je m'occuperais de toi jusqu'au bout, je serai toujours avec toi. C'est comme ça que Satan procède. Satan veut nous détruire. Il sait très bien qu'il a perdu contre Dieu. Il sait que ça ne sert à rien d'affronter Dieu frontalement. Par contre, il veut couper les liens entre Dieu et les hommes. Il veut couper cela. Et il utilise la justice de Dieu, le fait que Dieu est juste, en pointant du doigt nos manquements, pour nous accuser. Heureusement, Christ a payé pour tout ça. J'en parle après. Alors, troisième partie. Où est-ce que se passe le combat? Est-ce qu'il faut aller quelque part? Est-ce qu'il faut se déplacer? Est-ce qu'il faut changer de pays? On va lire dans 2 Corinthiens 10, versets 4 et 5. Sans doute, nous sommes des hommes et nous vivons comme tels, mais nous ne menons pas notre combat d'une manière purement humaine. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas simplement humaines. Elles tiennent leur puissance de Dieu qui les rend capables de renverser les forteresses. Ah, des forteresses. Bon, où est-ce qu'elles sont? Oui, nous renversons les faux raisonnements, ainsi que tout ce qui se dresse prétentieusement contre la connaissance de Dieu, et nous faisons prisonnière toute pensée pour l'amener à obéir au Christ. Premier constat, le combat est dans les pensées, dans mes pensées, dans les pensées des autres, dans les pensées de la société. En quoi est-ce que c'est un combat? On a vu déjà un peu comment Satan agissait avec le cas d'Ève ou de Jésus. Il va avoir une tendance à faire croire des choses fausses, à mentir, mentir sur qui on est, sur l'identité de Christ, mentir sur les promesses que Ève pouvait avoir reçues, mentir sur qui est Dieu, mentir sur la parole de Dieu, mentir sur la relation entre Dieu et les hommes. En Jean 8, 44, je l'ai mis après, bon, c'est pas grave. On lit, il est menteur et père du mensonge. C'est ça une forteresse. C'est quoi cette histoire de forteresse? Une forteresse, c'est une plateforme, une place forte, inébranlable. C'est quelque chose qui nous empêche d'avancer. Dans mon cas, par exemple, quand j'ai eu mes 2 années de dépression, l'idée qui me taraudait, qui m'a fait m'apitoyer sur moi-même, c'est tu es trop nul pour servir à quoi que ce soit. Et pendant 2 ans, j'ai eu cette idée. J'arrivais pas à avancer. Alors que j'étais converti, je veux dire, j'étais fils de Dieu. Et Satan a réussi à mentir complètement sur mon identité pendant 2 ans. Il m'avait mis à terre avant même que le combat commence. Parce qu'il savait qu'avec Jésus, on gagne le combat. Les forteresses, ça peut être plein de choses. J'ai mis une liste, je vais la lire et tu fais défiler. Dieu n'existe pas. Dieu ne peut pas m'aimer. Je veux bien qu'il aime tous les autres, mais il ne peut pas m'aimer moi. Je n'ai aucun moyen d'être pardonné pour ce que j'ai fait. Je ne pourrai jamais me pardonner à moi-même. Je ne serai jamais assez bien. À quoi bon? À quoi bon continuer? Je suis trop moche, petit, faible, bête, inutile, choisissez ce que vous voulez. Comment pourrais-je être accepté? Je ne pourrai jamais changer là-dessus. Je resterai toujours comme ça. La vie ne sert à rien. Personne ne m'aime. Vous pouvez en rajouter à la liste. Elle n'est pas exhaustive. Moi, on s'en fout. Mais tout ça, c'est des mensonges. Comme j'ai dit tout à l'heure. Au sujet de Satan, il est menteur et père du mensonge. Mais ce sont des mensonges qui sont très classiques, entre guillemets, dans le sens où ils marchent bien, ils sapent qui on est, ils sapent notre identité et ils nous mettent à terre avant qu'on puisse attaquer. Et une des autres pistes d'attaque qu'on a vues dans Apocalypse, Job et Zacharie, Satan, il connaît très bien la loi. On le voit quand il est avec Jésus, il utilise la loi, il utilise la parole de Dieu. Et il sait très bien montrer toutes nos accusations. Il sait très bien aussi nous faire culpabiliser. C'est aussi une technique d'attaque qu'il a. Alors, bon, maintenant que j'ai beaucoup parlé de Satan, on va parler de la victoire. Parce qu'on a la victoire. Dans Colossiens 2, versets 13 à 15, il est dit: Et vous, qui étiez morts à cause de vos fautes, et parce que vous étiez des incirconcis, des païens, Dieu vous a donné la vie avec le Christ. Il nous a pardonné toutes nos fautes, car il a annulé l'acte qui établissait nos manquements à l'égard des commandements. Oui, il l'a effacé, le clouant sur la croix. Là, il a désarmé toute autorité, tout pouvoir, les donnant publiquement en spectacle, quand il les a traînés dans son cortège triomphal, après sa victoire à la croix. Première remarque, c'est le même vocabulaire que dans Éphésiens 6, la notion de puissance, la notion d'autorité, de pouvoir. Qu'est-ce qu'il dit ce passage? Que Jésus a la victoire. Sur la croix, il a gagné. Il a cloué l'acte sur lequel il avait écrit tous les péchés qu'on avait faits. Il l'a cloué à la croix. Satan n'a plus le pouvoir de nous accuser là-dessus. On a été pardonné. On n'est plus jugé sur cette base. Il faut avoir reconnaître ce que Jésus a fait, mais ensuite, on n'est plus jugé sur la base de la loi. C'est pour ça que souvent Satan va avoir une tendance à nous dire, tu n'es pas acceptable, tu n'es pas assez bien. Il a peur qu'on comprenne ça, qu'on n'est plus jugé sur la base de nos mérites, qu'on n'est plus jugé sur la base de ce qu'on fait. Bon, juste pour modérer un tout petit peu mes propos, ça ne veut pas dire qu'on peut faire n'importe quoi. Relisez Jacques 2, c'était mon dernier prêche. Dans Zacharie 3, versets 3 à 4, donc la fin de ce que j'ai lu tout à l'heure, on voit en fait comment ça se passe après que l'accusateur est accusé. Or, Josué était couvert d'habits très sales et il se tenait devant l'ange. L'ange s'adressa à ceux qui se tenaient devant lui et leur ordonna, ôtez-lui ses vêtements sales. Et il ajouta à l'adresse de Josué, regarde, j'ai enlevé le poids de la faute que tu portais et l'on te revêtira d'habits de fête. L'accusateur peut être à côté, c'est le juge qui décide. Et le juge, il est juste, mais il nous aime. Christ nous a enlevé le poids de la faute. Dernière partie, être rempli par Dieu. Alors, c'est un peu c'est une partie de bilan. Donc, on a vu qu'il existe un combat. Ce combat est au niveau de nos pensées. Le combat, c'est qu'est-ce qui occupe nos pensées? Il y a deux sources possibles pour les pensées. Ce qui vient de Dieu, ce qui ne vient pas de Dieu, qui vient de Satan, des démons, ça peut venir de notre péché. Il nous faut apprendre à refuser cette dernière pensée. On l'a déjà lu tout à l'heure, mais dans 2 Corinthiens 10, verset 5, deuxième partie, il est dit, nous faisons prisonnière toute pensée pour l'amener à obéir au Christ. Le but, c'est que nos pensées obéissent au Christ, que nos pensées soient le reflet de qui est Christ, et non pas le reflet de ce qu'on veut nous faire croire. Dans Philippiens 4:8, il est écrit, enfin, frères, nourrissez vos pensées de tout ce qui est vrai, noble, juste, pur, digne d'amour ou d'approbation, de tout ce qui mérite respect et louange. Ces pensées-là, elles viennent de Dieu. Je veux particulièrement insister sur le vrai. La vérité, elle est en Dieu, et pas dans les mensonges du diable. Et insister sur le juste. La justice, c'est pas notre justice, c'est pas notre façon de voir les choses, c'est la justice qui vient de Dieu. La culpabilité. Si vous sentez coupable, et on peut très souvent se sentir coupable parce que Satan adore nous accuser, la culpabilité, elle ne vient pas de Dieu. La repentance, oui, mais la différence entre les deux est importante. Par exemple, on peut lire dans 2 Corinthiens 7, verset 10, en effet, la tristesse qui est bonne aux yeux de Dieu produit un changement d'attitude qui conduit au salut et qu'on ne regrette pas. La tristesse du monde, elle, produit la mort. La culpabilité, c'est s'apitoyer sur soi-même, se regarder à soi-même. La repentance, c'est se tourner vers Dieu, se rendre compte qu'on a péché et se tourner vers Dieu, aller vers une solution. Et on est responsable de choisir de nourrir nos pensées ainsi, de ne pas entretenir des mauvaises pensées. C'est un choix, il faut prendre des décisions. On choisit de ne pas croire aux mensonges du diable. Et ça prend du temps, ça peut prendre du temps. Je pourrais témoigner de plein de trucs, ça prend du temps d'accepter, de refuser des mensonges. Mais si on sait que c'est des mensonges, le diable a déjà perdu. Et le diable a perdu sur la croix. Excusez-moi. Dans Luc 11, tout à l'heure, j'ai déjà lu un extrait sur les deux royaumes, le royaume de Satan et le royaume de Dieu. Je voulais continuer dans ce passage. Alors, un peu plus bas, il est écrit, lorsqu'un esprit mauvais est sorti de quelqu'un, il erre çà et là dans des lieux déserts à la recherche d'un lieu de repos. Et il n'en trouve pas. Alors il se dit, il vaut mieux regagner la demeure que j'ai quittée. Il y retourne donc et la trouve balayée et mise en ordre. Alors il va chercher sept autres esprits, encore plus méchants que lui, et les ramène avec lui. Ils envahissent la demeure et s'y installent. Finalement, la condition de cet homme est pire qu'avant. Alors, c'est un passage qui n'est pas facile. Je l'appelle la parabole de la maison vide. Quelle est l'idée? Même si en moi j'arrive à vider complètement un pan de ma vie de toutes les pensées négatives, donc à prendre une pièce qui servait de débarras et à enlever tout ce qui était dedans, si je ne remplis pas cette pièce, elle va redevenir un débarras. Ça va immanquablement devenir un débarras. Il faut non seulement vider les mauvaises pensées, mais les remplir, les remplacer par ce qui vient de Dieu. Et je vais illustrer cela d'une autre façon. Ah non, ça je le laisse. Voici un vase. Un vase, ça sert à contenir des fleurs. Mais si je ne l'utilise pas pour contenir des fleurs, bah, il va commencer à me servir pour autre chose. Par exemple, je pourrais y mettre les billets de train non utilisés parce qu'ils traînent un peu trop sur ma commode. Donc je les mets là. Puis il va commencer en fait aussi à me servir un peu de poubelle. Donc, voilà. Allez, hop. On peut mettre encore. Voilà. Bon. Comment je peux l'utiliser pour avoir des fleurs? Première étape, le vider. Première étape, le vider. Mais une fois qu'il est vidé, si je le laisse vide, il ne va pas avoir des fleurs miraculeusement. Et immanquablement, si je le laisse vide, en fait, très rapidement, il va récupérer. Non, ce qu'il faut faire, c'est le vider. Et une fois vidé, rajouter des fleurs dedans. Plus les nutriments qu'il faut. Voilà, je vais en mettre à côté, c'était à peu près sûr. C'est pas grave, ça ira pas loin. Voilà. Et rajouter les nutriments qu'il faut pour que ça vive bien. Vous embêtez pas. J'aurais dû le parier. Je les ramasserai après. Voilà. Je voulais vous donner cette image du vase pour vraiment que vous compreniez. Il faut non seulement vider ce qui ne vient pas de Dieu, mais le remplacer par ce qui vient de Dieu. C'est pareil, c'est dans nos pensées, c'est pareil. Si vous avez quelque chose sur lequel vous savez que c'est faux, il faut d'abord vous convaincre que c'est faux, premier point. Par exemple, le mensonge, je suis nul, ça c'était faux, c'était quelque chose qui venait de Dieu. Et ensuite, le remplacer par ce qui vient de Dieu. Je suis un fils de Dieu. J'ai de la valeur aux yeux de Dieu. Prions. Seigneur, ouais, je veux te bénir parce que tu es un grand Dieu. Tu es au-dessus de tout. Tu es au-dessus de Satan. Tu es au-dessus des démons. Seigneur, tu es au-dessus de mes pensées. Tu es au-dessus de qui je suis. Et Seigneur, je te demande pardon parce que oui, bien souvent. Je peux croire les mensonges de Satan, croire ce qu'il me dit sur moi-même et ne pas te croire toi, Seigneur. Mais Seigneur, voilà, je sais que tu as la victoire. Merci pour ce que tu as fait à la croix. Tu as remporté toute chose. Tu as remporté le combat, Seigneur. Et Seigneur, ouais, je veux te demander de m'aider à chaque instant de ma vie, à me tourner vers toi, comme on l'a chanté ce matin, à me tourner vers toi en premier, et à comprendre ce que toi tu me dis, plutôt que ce que moi je me dis ou ce que Satan et les démons peuvent me dire, Seigneur. Sois loué pour qui tu es, sois loué parce que à toi revient toute la gloire, Seigneur. Amen.
Amen.